Alors, on va commencer Bezrat Hashem, notre premier cours sur le chapitre 9, Perek Tet, chapitre 9. Alors, je ne sais pas si vous avez les feuilles. Est-ce que vous avez vos feuilles comme ça ?
Non.
Moi, je dois l'avoir dans
Je l'avais distribué, ça fait quelques...
Ah, c'est là.
Voilà, c'est là. Alors, en fait, c'est juste pour faire un petit résumé. Un petit résumé pour expliquer où on en est. Parce qu'avant d'attaquer le chapitre 9... Il faut d'abord expliquer où on en est. Bah, suivez à deux si c'est possible. Voilà. Et après, si vous pouvez la garder dans vos tania, c'est mieux. Ou bien vous me la rendez. Ou bien sinon, vous me la rendez et de temps en temps, elle ressortira. Tout le monde a une feuille. D'accord. Alors, en fait, le but du tania, en tout cas des premiers chapitres, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est ça le but. De comprendre qui suis-je. Comment on a expliqué au début du cours, d'accord. D'un côté... Des fois, on voit qu'on a envie de faire des mitzvot, donc on se sent quelqu'un de bien. Et d'un autre côté, on a des pulsions tellement négatives qu'on se demande, finalement, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Edmond Razaken, pour répondre à la question, d'emblée, au début. Donc on va aller directement dans la colonne, vous avez 1 à 2, 2 âmes. D'emblée, l'Edmond Razaken nous a dit que c'est pas une âme que nous avons à l'intérieur, mais c'est 2 âmes. Et donc, quelque part, il nous dit ça pour nous rassurer et pour nous dire, écoute, ne sois pas choqué si tu vois que des fois tu sens que tu as envie d'être un grand sadique et des fois tu sens que tu as envie de faire des avérotes comme un grand rachat. Tu dis, écoute, c'est pas compliqué, il y a deux moteurs à l'intérieur. Alors des fois c'est un qui fonctionne, des fois c'est l'autre qui fonctionne. Hybride. Ah, d'accord.
C'est bien ça.
Et donc, pour rentrer dans les mots du Tania, on avait Nefesh à Elokit, Nefesh à Behemit. Donc vous avez un B et deux. On a expliqué qu'il y a l'âme animale et l'âme divine. Nefesh à Elokit, l'âme Elokit, ça veut dire divine. Nefesh à Behemit, c'est l'âme animale. Alors, on a expliqué, ensuite on passe à la colonne numéro 2. Dans la colonne numéro 2, je vous fais un résumé rapide, hein, parce que bon, là il y a 4 mois de cours. Mais dans la colonne numéro 2, on s'est arrêté beaucoup sur l'âme divine. L'âme divine. Puisqu'on a expliqué qu'il y a deux âmes. Alors d'abord, on a commencé par l'âme divine. Pourquoi on a commencé par l'âme divine? Parce que c'est la plus importante. L'âme divine, Nefesh à Elokit. D'abord, on a parlé de sa structure. Donc ça, c'était le chapitre 3. Structure de l'homme. On avait expliqué que la structure de la Neshama, dans la structure, il y avait combien de sphirotes, vous vous rappelez?
10.
Donc il y avait 7 facultés sentimentales et 3 facultés intellectuelles. On a expliqué longuement. 3 facultés intellectuelles, c'est Chorma, Bina, Dad. De toute façon, on aura l'occasion de revenir dessus par la suite. Chorma, c'est l'idée. Bina, c'est la perception. Et Dad, c'est quand je m'attache à la chose. Ensuite, il y avait 7 expressions émotionnelles. Donc, on avait parlé de manière générale, c'est à droite, gauche, milieu. Donc, il y avait la bonté, la sévérité et leur harmonie. Donc, Chesed, Gvura, Tiferet. D'ailleurs, on le retrouve maintenant dans le décompte du Homer qu'on fait actuellement. De l'autre côté, toujours à droite. Donc, on a Chesed à droite, la bonté à droite, Gvura à gauche, Tiferet au milieu, c'est l'harmonie entre les deux. La bonté, la rigueur, l'harmonie. Ensuite, en dessous, on a Netzach, l'envie de gagner. Donc, ça, c'est à droite. On va vers l'avant. Hod, l'humilité, donc ça c'est en freine, et Yesod, la communication. Et enfin, Malchut, la royauté. Je rentre pas dedans parce que, on fait 7, je rentre pas dans les détails, de toutes les façons, Bezrat Hashem aura l'occasion après de revoir tout ça en détail. Donc ce qu'on a expliqué, c'est que l'âme divine, ainsi que l'âme animale, mais là on parle de l'âme divine, était structurée de 10 sphirotes, d'accord? 10 sphirotes, donc c'est les 10 facultés de l'homme. À part ça, ça on s'était beaucoup arrêté sur ça aussi, on avait parlé des moyens d'expression qu'a l'âme divine. Et l'âme animale aussi. Donc c'était ce qu'on appelait les vêtements. Donc il y a 10 facultés, les facultés c'est ma nature. Ma nature, qui suis-je? Et après il y a la manière comment je m'exprime. 3 modes d'expression, à savoir Mahashava, Dibour, Maasé. La pensée, la parole et l'action. Et donc on a expliqué que de la même manière, si on parlait dans la Torah et les mitzvot, ben, un juif par exemple, il communique avec Dieu au travers de la pensée, la parole et l'action. La pensée, c'est en pensant à des divrei Torah. La parole, c'est en disant des divrei Torah, et l'action, c'est en faisant des mitzvot. Ça veut dire que c'est les 3 modes d'expression qu'on a, dans le bien comme dans le mal. Quand je veux m'exprimer, je peux utiliser la pensée, la parole et l'action. D'accord? Alors, ensuite, on passe à la colonne d'après. Je m'arrête pas sur tous les détails. Dans la colonne d'après, on s'est arrêté sur l'âme animale. Et là, dans l'âme animale, on a expliqué, donc Nefesh à Behemit, on a expliqué qu'elle avait exactement la même structure que l'autre, l'âme divine. Ça veut dire à savoir... Les 10 facultés, les 3 modes d'expression, elle avait exactement la même chose. Mais la seule différence, c'est que l'âme divine, son but, c'est toujours de s'approcher encore plus et encore plus et encore plus d'Akadosh Baruch Hu. De se sentir encore plus petit par rapport à Akadosh Baruch Hu. Alors que l'âme animale, c'est exactement le contraire. Elle est entièrement égocentrique. tout le temps, c'est qu'est-ce qu'on va me donner, qu'est-ce que moi je vais tirer, d'accord? C'est l'ego à 100%. Alors on a expliqué que de manière générale, quand on parle du mal, il y a deux catégories de mal. Il y a les trois clipotes, il y a clipat noga. Trois clipotes, c'est le mal qui est irrécupérable. C'est-à-dire ça, il n'y a rien à faire. Comme on avait parlé le cochon, etc. Je peux faire toutes les cavanotes que tu veux, hein, pour vous rappeler, il n'y a rien à faire. Et il y a clipat noga. Clipat noga, c'est du mal, mais récupérable. Par exemple, on avait donné l'exemple, une personne, par exemple, qui va manger comme un goinfre, mais qui a mangé la nourriture cachère. Manger comme un goinfre, c'est pas bien. Mais comme il a mangé quelque chose de cachère, quand par la suite, il va par derrière étudier la Torah, il va récupérer l'énergie de cette nourriture et il va la ramener vers la Kadosh Baruch Hu. À condition d'étudier la Torah. Mais on avait expliqué que ça laisse quand même des traces, et c'est pour ça qu'il faudra un petit karcher après 120 ans. Clipat noga, trois clipotes. Là, avec ça, avant Pessah, après, bon, on avait développé beaucoup de détails, comme par exemple le dernier cours qu'on avait fait avant Pessah, on s'est arrêté sur le mal qu'il peut avoir aussi dans la pensée. On avait fait un long cours dans lequel on avait expliqué justement comment même dans la science en soi, ça n'a rien de mal, c'est bien la science, au contraire, c'est très bien, mais la science, ça peut aussi détruire le cerveau de quelqu'un à faire en sorte qu'après la Torah n'est plus prioritaire. Mmh. Mais bon, ça, je ne veux pas m'arrêter dessus. C'est ce qui se passe malheureusement. Donc, si on a une image générale, si on s'arrêtait, si on devait résumer en deux, trois mots ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, c'est qu'en fait, à l'intérieur de nous, c'est pas une âme qu'il y a, mais c'est deux âmes. Et chacune de ces deux âmes a exactement la même structure. À savoir, des facultés intellectuelles, des facultés sentimentales et des moyens d'expression. Maintenant qu'on a compris qu'il y a deux moteurs, mais il n'y a qu'un seul corps. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Imaginez une voiture hybride.
Il y a un combat.
Dans laquelle, le moteur essence, il veut tourner et en même temps, le moteur électrique, il veut tourner. C'est impossible. D'accord? C'est pas possible. Tu peux avoir ou l'un ou l'autre. Si les deux, ils veulent faire tourner les roues en même temps, c'est pas possible. Il faut un qui prend le relais après l'autre. Étant donné qu'on a expliqué, d'accord? Ça se discute.
Ça se discute parce que tu as des voitures.
La Ferrari et deux moteurs.
Ils te mettent les moteurs électriques sur le train arrière et le moteur.
Ah, d'accord.
La Ferrari, okay. Il y a deux moteurs. Électrique, il tourne en temps. Bon, c'est un problème.
D'accord. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ce qu'on a compris.
C'est une parenthèse.
Alors, qui est là?
Ah,
Azak.
Donc, à nous, qu'est-ce qui comprend?
Alors, justement, maintenant qu'on a compris qu'il y a une vraie structure, qu'il y a l'âme divine, qu'il y a l'âme animale, Azak ou Baruch. Allez, on va faire une petite pause, les Raïm. Tu repars déjà?
Non, je reste. J'ai une dérogation spéciale.
Ah, Azak.
C'est ouvert, enfin, tu vas à l'intérimaire.
Bah après, ça dépend à quelle heure.
Tu es venu goûter la pizza?
Tu veux la pizza?
Et qui c'est qui garde
la vidéo? Maintenant, il m'a dit c'est bon pour une heure ou deux.
D'accord.
Il sait faire les pizzas?
Ah bah c'est bon alors, tu vois?
C'est bien que moi. Eh oui, c'est bon. Il m'a dit tu peux pas rater un cours.
Ah, tu vas avant le cher.
Non, mais cher confrère. Comme j'ai Joe ce soir, je profite.
Et au fait, le
Ah, ouais. Zakobamour. Allez. Messieurs, on passe le Chaim.
On dit merci à Menachem pour.
Chazak Menachem. Leilou Nishmat, Simcha Bat Yitzhak.
Simcha Bat Yitzhak.
Tenez, le Chaim, faites passer le Chaim.
Tac.
Le Chaim.
Zakobamour.
En fait, t'as fait tourner la ZAPS.
Ça, c'est de l'essence. Alors, ouais. Alors.
C'est le moteur. C'est le moteur.
Ah, c'est le moteur.
Ah, je veux pas que vous endormiez parce que
Michael,
je suis
pas là. Tu es parti.
Tout le monde a eu le Chaim. Allez, le Chaim. Bah, ouf, t'as donné le Hunu Malakolam, Shakol, y'a mis devant. On refait Shakol, même si vous avez déjà fait sur le coca, parce qu'on savait pas qu'il y avait de la bouchaké à l'arrivée. Donc on l'avait pas dans notre esprit. Voilà.
Bat-Yitzhak.
Ok. Donc maintenant, Bezrat Hashem. Voilà. Non, Motsi, ceux qui ont fait Motsi ne font pas. Bon, après, Dan, il nous fera un petit cours sur les moteurs avec Serge, d'accord?
Il y en a un qui fera sur le hybride et l'autre sur l'électrique.
Non, sur l'essence. Un sur l'essence. Alors, en tout cas, ce qui est clair, c'est que l'Admor Hazaken, il y a un très grand chidouche du Tania qui est ici, qu'on a développé. C'est que les gens, ils pensent qu'en vérité, il y a un seul moteur à l'intérieur, mais qu'il y a deux yetzer. Deux penchants. Comme ça, on a toujours pensé qu'il y a deux penchants, un penchant à droite, un penchant à gauche. L'Admor HaZaken a poussé beaucoup plus loin, et c'est pas une invention à lui. En fait, il a fait que reprendre le texte de Rabbi Chaim Vital, qui disait que, au fond de nous, c'est pas seulement deux penchants qu'on a. C'est deux âmes. Deux âmes, et donc chacune de ces deux âmes veut prendre le contrôle du corps. Il y a une vraie guerre, et c'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Il y a une vraie guerre, et qui parle de guerre? En général, elle est toujours un quartier général. Parce qu'on parle de guerre, quand il y a une guerre, et toujours, quand par exemple, t'as une guerre entre un roi et un autre roi, chacun a son quartier général. Donc ce qu'on va étudier aujourd'hui, on va étudier quel est le quartier général de l'âme divine, et quel est le quartier général de l'âme animale dans le corps. Et après, on va expliquer quelle guerre il se livre. Et vous allez voir qu'après ce pérec, le chapitre tête, très important comme chapitre, on va commencer à comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc en fait, là, on va tourner la page. Là, vous allez dans le schéma. Et c'est vraiment une nouvelle page, parce que là, maintenant, c'est comprendre le combat des âmes. Une fois qu'on a compris qu'il y a deux âmes et qu'on a bien compris la structure, maintenant, on va commencer à comprendre le combat. Et quand on aura compris le combat, on pourra comprendre les différents acteurs. Donc on pourra comprendre comment les tzadikim y jouent, comment les réchaïm y jouent, comment nous on joue. Parce que maintenant, une fois qu'on a compris qu'est-ce qu'il y a sur place, maintenant on va commencer à comprendre quel est le combat, et après on va expliquer comment les gens ils font le combat.
Mais normalement il ne devrait pas y avoir de combat, parce qu'il y a une âme divine et une âme animale, et l'âme divine devrait l'emporter sur l'âme animale.
Mais il y a un combat.
On n'a pas besoin.
D'accord. C'est ce qu'on va développer. Je vous donne un exemple, pour illustrer ce que je veux dire. D'accord. Regardez. Par exemple, on a un cerveau. On a un seul cerveau. Le cerveau, il peut réfléchir à une chose en même temps. D'accord ? Soit je réfléchis à des bonnes choses, soit je réfléchis à des mauvaises choses. Maintenant, et l'âme divine et l'âme animale n'ont pas de cerveau. Elles ont, pour s'exprimer, elles ont besoin de prendre contrôle du cerveau et de penser à une pensée positive pour l'âme divine ou de penser à une pensée négative pour l'âme animale. Donc il y a une guerre. Il y a une vraie guerre. L'âme animale, pas qu'elle essaie de t'envoyer une pensée tordue. Comme ça, le cerveau est occupé par ça. Après, hop, l'âme divine, elle essaie de t'envoyer une parole de tort. Il y a une guerre constante pour savoir qui va prendre le contrôle du corps. Qui va prendre le contrôle du cerveau. Qui va prendre le contrôle des mains. Qui va prendre le contrôle de la bouche. Qui va prendre le contrôle des yeux. Sur chaque membre de notre corps, il y a un combat constant à savoir qui va prendre le contrôle, qui va prendre le contrôle de ce membre. Et c'est exactement comme un combat. Parce que, on expliquera plus tard dans la suite, que comme dans un combat, le roi, ça le dérange pas de gagner même une ville sur le pays. Il dit bon, maintenant j'ai gagné une ville, demain je vais gagner deux villes, après je vais gagner trois villes. Pareil le Yetzara. Et pareil le Yetzertov. Ça veut dire le Yetzara, il va dire, moi ça me dérange pas de gagner que les yeux. Le reste j'ai pas gagné, c'est pas grave. Il a gagné les yeux. C'est fini. Le Yetzertov va dire, moi bon, les yeux j'ai perdu, mais je vais essayer de récupérer au moins le cerveau, qu'au moins il a la tête un peu dans la Torah. Chacun il essaye de récupérer un maximum et de conquérir un maximum. Il y a une vraie conquête, une vraie guerre. Et ça on va se baser sur les écrits de Shlomo HaMelech, qui compare beaucoup le ce qui se passe à l'intérieur, vraiment comme une guerre entre deux rois.
Mais alors, cette acquisition, est-ce qu'elle reste permanente ou
pas? Pas du tout, c'est constant.
Ah, d'accord.
C'est constant, c'est la guerre.
Il n'y a pas d'acquis. Hein.
D'accord. Il n'y a pas d'acquis.
Tu as parlé du fait que ça résidait à deux endroits différents.
Alors justement, avant de comprendre quel est le combat, on a bien compris l'âme divine, l'âme animale, ça on l'a compris. Maintenant, avant de comprendre quel est le combat, il faut d'abord comprendre quel est le quartier général. Et après, une fois qu'on aura compris le quartier général, on va expliquer quel est le combat. Ok. Alors on y va. Et vous allez voir, c'est vraiment biologique ce qu'on va expliquer. Hein. C'est lié au corps, quoi, la biologie du corps. Perek Tet, chapitre 9. On peut prendre maintenant le Tanya.
Donc page 130.
Hein. Page 130.
Et page 26, c'est André Petit.
Allez, les Chaim, Chaim.
Chaim.
Pas libre.
C'est bon. Il reste des livres encore, je crois. Il reste des livres encore.
Ah ben, je veux bien.
Là, John.
Merci.
Perek Tet. Non, c'est le seul qui est pas le même.
130 chez nous.
C'est bon. Allez, rabotez, on y va. Perek Tet, chapitre 9. Vehine. Mais comme Mishkan Nefesh Abemit Shemiklipat Noga. L'endroit du siège, c'est-à-dire le siège où se trouve l'âme animale qui vient de la Klipat Noga. Ça veut dire, comme on a expliqué juste avant, Klipat Noga, ça veut dire le mal qui est récupérable. Bechol Ish Israël, dans tout homme juif, on ne parle pas spécialement du mal. On parle des pulsions animales, qui ne sont pas forcément négatives. Par exemple, l'envie de manger, l'envie de dormir, l'envie de boire. On a expliqué que ce n'est pas négatif. Où se trouve le quartier général de toutes les pulsions animales? Il se trouve Balev, dans le cœur. Bechalal Smali, dans le côté gauche, Shehu Maledam, qui est plein de sang. Il faut qu'on s'arrête un peu pour expliquer ce que ça veut dire. Alors ce qui est curieux, c'est comment le Zohar a pu expliquer ça, hein, d'accord?
Comment aller parce que le corps il se trouve à gauche.
Alors écoutez, très, non, c'est très simple. Normalement, vous allez me dire, mais nous, on a. Alors, vous allez me dire, oui, c'est évident, le corps se trouve à gauche. Alors écoutez bien.
Non, mais là,
en vérité,
plein de sang.
D'accord. En vérité, dans le cœur lui-même, qui est tout le temps à gauche, bien sûr, il y a deux côtés. Il y a le côté droit et le côté gauche. Qu'est-ce qui se passe dans le côté droit du cœur? Dans le côté droit du cœur, il va récupérer le sang du corps entier. Donc c'est comme une pompe, il récupère le sang du corps, il va le remplir d'oxygène, et après, il le fait passer du côté gauche du cœur. Le côté gauche du cœur, c'est là qu'il y a le plus de sang. Et c'est là la chaleur se trouve dans le côté gauche. Le côté droit du cœur, c'est là qu'on récupère le sang, on le remplit d'oxygène, et hop, il renvoie de l'autre côté du cœur, et là-bas, il est bourré de sang. Maintenant, ce que la Gemara nous dit, c'est que le cœur, à tout moment... Bien que le cœur c'est une pompe, ça veut dire qu'il fait constamment, il fait que renvoyer le sang. À tout moment dans le cœur, il y a la quantité d'un révit de sang en moyenne. Un révit, d'accord, c'est 8,6 centilitres. C'est pour ça que la Gemara nous dit que l'âme d'une personne tient sur 8,6 centilitres. Pourquoi? C'est un révit, c'est la même valeur que le, c'est comme pour le kiddush.
C'est très juste.
D'accord.
Ah bon,
mais c'est pas beaucoup. Mais c'est la quantité qu'il y a dans le cœur. D'accord. Attends. Pourquoi? Parce qu'on dit que la Neshama tient avec ça. C'est écrit que la Neshama elle tient dans ça. La Neshama elle tient dans ce révit de sang. Alors pourquoi j'explique ça? Parce que là maintenant dans le cœur, il y a le côté droit du cœur et le côté gauche du cœur. Le côté, c'est un révit, c'est ça.
Un peu moins
d'un demi. Pas beaucoup. Je parle du côté gauche du cœur. Dans le côté gauche du cœur, ça veut dire le côté gauche du cœur, c'est le sang qui a déjà été oxygéné juste avant qui repart dans le corps. D'accord, c'est pas grand chose.
Constamment.
Physique, oui. Côté droit, côté gauche. On peut le voir physiquement. Physiquement, c'est une pompe. Il remplit d'oxygène, il repasse du côté gauche et hop, ça repart. C'est une pompe. C'est comme, exactement comme une pompe. Ok. Alors, nous dit ici la Gemara Zaken, comme on a expliqué que dans le cœur, il y a le côté droit et le côté gauche, le côté droit, ça représente l'oxygène. Le côté gauche, ça représente le sang. Le sang, qu'est-ce que ça représente le sang? Si je vous dis le sang, qu'est-ce que ça vous inspire comme idée, le sang? C'est la vie. Le sang, c'est aussi la chaleur. Le sang, c'est la chaleur. On voit par exemple les taureaux, la couleur rouge, etc. Le sang, ça représente la, ce qu'on appelle en hébreu la retichut, la chaleur. La chaleur, c'est quoi? C'est les pulsions. Les pulsions, c'est la chaleur.
Négative.
Alors, j'ai pas dit négative. Les pulsions en général, positive, négative, mais c'est une pulsion. D'accord? C'est une pulsion, c'est la vie. Ça n'a rien à voir avec le cerveau. Le cerveau, c'est beaucoup plus calculé, beaucoup plus froid. Maintenant, il explique quelque chose de très simple. Il dit, le quartier général de l'âme animale, étant donné que l'âme animale est basée principalement sur des pulsions, d'accord? Pas forcément interdites, mais des pulsions. Les pulsions, c'est le cœur. Parce qu'une pulsion, c'est pas quelque chose de réfléchi. Je ne réfléchis pas pour avoir faim. Est-ce que je dois réfléchir avant d'avoir faim? Est-ce que je dois réfléchir pour dire maintenant je dois avoir faim? Non, je réfléchis pas. C'est une pulsion. Je réfléchis pas avant d'être fatigué. Je réfléchis pas avant de boire. C'est une pulsion. Une pulsion, c'est comme ça vient du cœur. Le cœur, c'est comme ça. Ça vient automatique. Donc, le siège de l'âme animale se trouve où? Se trouve dans le cœur. Pourquoi? Moshe Adam Mekoro Balev. Alors, non, pardon. J'ai sauté quelque chose. Shehu Maledam. Donc, le côté gauche du cœur qui est plein de sang. Uksiv, c'est écrit. Rien à voir, non, non. Ah, non, non, non. Oui, bon. Il y a aussi un rapport, mais ça, je rentre pas dedans. Bien sûr, il y a un rapport. Bien sûr qu'il y a un rapport. Uksiv, c'est écrit. Qui est Adam ou un Nefesh. C'est écrit que le sang, c'est l'âme. De quelle âme on parle ici? On parle de l'âme animale. Velachen, c'est pour ça. Kol Ataavot. Tous les plaisirs. Veit Paharut. D'accord? Et les personnes, par exemple, qui vont s'enorgueillir. Vekas, la colère, Vedomen, et tout ce qui ressemble. Donc, c'est des pulsions, tout ça. D'accord? Tous les plaisirs, la recherche des plaisirs, c'est une envie, c'est pas quelque chose que tu réfléchis. En Balev. Le quartier général, c'est dans le cœur. Umealev, En Mitpashtot Becholagouf. Et c'est du cœur que ça va être répandu dans tout le corps. Exactement comme le cœur. Qu'est-ce qu'il fait le cœur? Il pompe le sang. Et c'est lui qui envoie le sang partout. Il envoie le sang partout, même dans le cerveau. D'où vient le sang qu'il y a dans le cerveau? Il vient du cœur. Donc, le quartier général du sang, c'est quoi? C'est le cœur. C'est la même chose. Le quartier général des pulsions, c'est quoi? C'est le cœur. Alors, c'est très important ce qu'il dit ici. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que pour toutes les pulsions, il y avait une grande question qu'on avait posée dans un des premiers cours du Tania. On avait expliqué, il faut bien réfléchir, on se pose une question. Quand j'ai une idée, qu'est-ce qui a démarré en premier? Est-ce que c'est le cœur ou est-ce que c'est l'esprit? Je vais vous donner un exemple très simple. Comment ça se passe en général? Comment ils font les commerciaux pour encourager quelqu'un à acheter quelque chose? Vous allez, je sais pas, vous allez dans un supermarché et on veut vous attirer pour acheter quelque chose. On n'a pas envie de parler directement à votre cerveau. Parce que votre cerveau sait que vous n'avez pas besoin de ce produit. Votre cerveau sait que vous pouvez vous débrouiller parfaitement avec ce que vous avez à la maison. Nous, on veut vous attraper par le cœur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On vous attrape par le cœur. On fait une belle pub avec un beau truc. Et le cœur, il attrape. Maintenant, le cœur, il réfléchit pas. Le cœur, il dit, ça me plaît, je le veux. Maintenant, ça a démarré du cœur. Après, le cœur envoie un signal, une pulsion au cerveau pour lui dire, j'ai décidé que je le veux, maintenant tu vas réfléchir comment on va l'avoir. C'est pas est-ce qu'on va l'avoir, c'est comment on va l'avoir. Quel est le problème qu'il y a dans ce que je viens d'expliquer? C'est que tout a démarré du cœur. Et que quand ça arrive au cerveau, le cerveau n'a plus son mot à dire.
C'est le patron.
D'accord? Ah, justement. Ah, voilà, oui, c'est... Là, dans une démarche comme oui, ça, logique. Dans la démarche de l'âme animale, le cerveau n'a plus son mot à dire, du style. C'est pas forcément quelque chose de pas cachère. Par exemple, j'ai faim. Mon cœur envoie une pulsion, j'ai faim. Quand le cœur envoie cette information au cerveau, il dit pas au cerveau, réfléchis à ce que tu as faim. Il lui dit, j'ai faim, c'est un fait, trouve-moi la nourriture. C'est tout. D'accord? J'ai soif, je suis fatigué, trouve-moi un lit. D'accord? Ça veut dire quoi? Qui a lancé la pulsion? Qui a lancé la pulsion? C'est le cœur. Là, on voit bien dans cet exemple, comment le siège des pulsions, le siège des pulsions, c'est quoi? Le siège des pulsions, c'est dans le cœur. C'est bon? C'est physique.
En plus, ce que tu nous es en train de nous dire, c'est que les deux résidences, l'âme animale, c'est dans le cœur. Vraiment le cœur.
Ah oui, non, d'accord, j'ai compris la question. Non, c'est, d'une certaine manière, c'est imagé. Je te rassure, quand on fait une transplantation, on change pas d'âme.
Non, c'est pas la question.
En fait. Ah oui,
mais c'est une image.
C'est fonctionnel.
L'image du cœur, c'est parce que le cœur, ça représente les pulsions. Le sang. Le sang, c'est les pulsions.
D'accord, mais j'arrive pas en fait à comprendre le parallèle de l'image du cœur physique avec ce cœur-là.
Ah, très simple. Parce que qu'est-ce qui fait le cœur? Le cœur, c'est le centre, d'accord? Si tu veux, c'est le centre où se trouve le sang de tout le corps. C'est lui qui envoie l'énergie à tout le corps. Ça, c'est le cœur. Le cerveau, c'est lui qui envoie les ordres. Donc chacun a son rôle. Chacun, il y a deux sièges chez un homme. Il y a le cœur, il y a le cerveau. Et on voit bien, par exemple, Dieu préserve quand une personne tombe malade. Il y a des gens que c'est le cœur qui lâche, il y a des gens que c'est le cerveau qui lâche. D'accord? Et lequel est le plus vital? Les deux sont importants, mais le cœur est encore plus important. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui sont dans un coma du cerveau, mais qui peuvent rester encore des mois comme ça. Même des années, des fois. Parce que le cœur continue à fonctionner. Malheureusement, c'est comme ça. Parce qu'il y a, on voit vraiment, même médicalement, qu'il y a vraiment deux centres à l'intérieur. Il y a deux centres. Il y a le centre qui envoie les ordres, donc le centre logique, ça c'est le cerveau. Et il y a le centre du cœur qui lui envoie l'énergie. Et on peut avoir de l'énergie même s'il n'y a pas de cerveau. Enfin, pas de cerveau, mais presque pas. C'est ça, on est d'accord. On peut vivre d'une manière limitée, d'accord. Les membres ont du mal à se développer, mais on peut vivre.
Alors,
on peut. Non, il faut un petit peu, mais si le temps que le sang y passe, ça tourne. Tant que le cerveau est alimenté en sang, il n'y a pas de problème.
D'accord, mais quand on est dans un coma, par exemple, on ne peut pas bouger ou quoi que ce soit.
Oui, on ne bouge pas, mais le corps, il vit.
On parle de vie. On parle de vie.
Alors, pourquoi je parle de ça? Non, attendez, parce qu'il ne faut pas qu'on perde le fil. Ce qu'il veut nous montrer ici, c'est qu'il y a deux quartiers généraux dans le corps. Il y a un quartier général qui est le quartier général du cœur, et un quartier général qui est le quartier général de la tête. Pourquoi c'est très important de comprendre ça? Parce que du quartier général partent les ordres. Donc, par rapport à l'âme animale, son quartier général, c'est quoi? C'est le cœur. C'est les pulsions. C'est-à-dire, d'abord, je le veux. Après, le cerveau va simplement décider, réfléchir à savoir comment je vais l'obtenir. Mais tout démarre du cœur. Vous comprenez qu'on peut difficilement servir à Kadosh Baruch Hu qu'avec son cœur. Parce qu'une personne qui dit, moi, je sers Dieu qu'avec mon cœur, c'est-à-dire, maintenant, mon cœur, il me dit, il va faire une mitzvah, alors je fais la mitzvah, et demain, mon cœur, il me dit, maintenant, je vais faire une avéra. Le cerveau n'a pas son mot à dire. Un juif ne peut pas servir à Kadosh Baruch Hu qu'avec son cœur. Alors, la volonté, j'en ai pas parlé encore. Contrairement aux idées reçues, il y a beaucoup de gens qui pensent que le plus important chez un juif, c'est d'être chaleureux. C'est très important d'être chaleureux. Mais une personne qui a que la chaleur, que pour lui, le plus important, c'est d'être un juif chaleureux, mais qui ne prend pas du temps pour réfléchir et pour maîtriser, eh ben, ce juif, il peut être le matin en train de faire une grande mitzvah, et après, son cœur, il envoie une autre pulsion, il dit hop, maintenant le Yetzara, il prend le contrôle, il dit vas-y, maintenant, on va faire une bêtise. S'il n'a pas habitué son cerveau à prendre contrôle et à savoir décider, à savoir s'arrêter, il s'arrêtera pas. Pourquoi? Parce que la méthode opérationnelle de l'âme animale, c'est d'abord je le veux et après je réfléchis comment je vais l'avoir. Mais une fois que je l'ai voulu, je le veux. Ça, c'est le siège de l'âme animale. Je veux juste terminer de l'autre côté, après les questions. De l'autre côté, De l'autre côté, on a l'âme divine. L'âme divine, son siège se trouve dans le cerveau. Alors, ça ne veut pas dire, encore une fois, que lorsqu'une personne a un coma, lorsqu'une personne est dans un coma, c'est-à-dire qu'il n'a plus de cerveau, ça veut dire qu'il n'a plus d'âme, chas v'shalom. C'est une image. C'est quoi le cerveau? Le cerveau, c'est celui qui contrôle, c'est celui qui domine. Le cerveau, c'est celui qui est capable que même quand une personne veut quelque chose, même quand je veux le faire, le cerveau, c'est celui qui est capable de me dire, stop, ne le fais pas. C'est ce qui fait la différence, par exemple, entre un enfant et un adulte. Un enfant, il veut quelque chose, il se met à hurler. Et rien ne peut l'arrêter tant qu'il n'a pas ce qu'il a, ce qu'il veut. Alors que l'adulte, ça devrait être comme ça, d'accord? L'adulte, il arrive à se calmer. Pourquoi il arrive à se calmer? Parce que chez l'enfant, le cerveau n'est pas encore élaboré, il n'est pas encore développé. Donc comme le cerveau n'est pas encore développé, le principal chez l'enfant, c'est quoi? C'est le cœur. Et quand le cœur, il veut quelque chose, rien ne peut l'arrêter. Alors qu'avec le temps, l'adulte va développer le cerveau. On sait très bien médicalement, ça s'explique, ça, qu'on développe le cerveau. Et quand on développe le cerveau apprend avec le temps à maîtriser les pulsions du cœur. C'est ce qu'on appelle, en hébreu, Moach Shalit Alalev. C'est une définition qui reviendra plusieurs fois dans le Tanya. Pour les habitués du Tanya, certainement se rappellent plusieurs fois qu'on a vu cette notion. Moach Shalit Alalev, ça veut dire le cerveau doit dominer le cœur. On apprend la chassidut Chabad. Chabad, ça veut dire l'intellect. Et d'après l'Admor HaZaken, une composante principale du judaïsme, c'est d'habituer son cerveau à maîtriser son corps. Parce que sans ça, le Yetzer Hara fait ce qu'il veut de moi. Et même si j'ai fait une mitzvah le matin, rien ne me garantit que 10 minutes plus tard, je ne voudrais pas faire une avéra. Donc il faut habituer son corps, mais ça prend très longtemps. C'est un travail très très long. Habituer son corps à savoir maîtriser. Et ça, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose qui est lié spécialement à la chassidoute. Vous pouvez voir par exemple, on m'a raconté que les plus grands présidents, les plus grands PDG, etc., quand on leur apprend à gérer des situations de crise, parce qu'il y a des situations de crise, Et c'est dans un moment comme ça qu'on arrive à voir comment une personne, qu'on arrive à voir la force d'une personne. Tout le monde sait se retenir quand il y a rien, c'est facile. Mais quand il y a une situation de crise, quand il y a un drame qui se passe et qu'on voit que la personne arrive à mettre de côté, c'est pas mettre de côté, mais maîtriser ses sentiments et essayer de reprendre le contrôle avec son cerveau, dire bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'on voit que le cerveau a pris le contrôle sur le corps. D'après l'Admor HaZaken, la base de la réussite d'un juif, c'est d'apprendre à son cerveau à dominer son cœur. Pourquoi? Parce que le siège de l'âme divine se trouve dans la tête. Ça veut dire comme ça. L'âme animale, c'est d'abord je le veux et le cerveau va réfléchir comment je vais l'obtenir. L'âme divine, c'est le contraire. D'abord j'y réfléchis, j'ai compris que c'est pour moi. Une fois que j'ai compris que c'est pour moi, là on envoie au cœur et dit bon maintenant tu peux commencer à le ressentir. Donc on comprend bien que c'est deux mondes complètement différents et on voit même dans notre propre vie qu'il y a certaines choses pour lesquelles il y a eu une démarche réfléchie. On a bien réfléchi avant de le faire et après, progressivement, on l'a ressenti. Et il y a d'autres choses dans la vie dans lesquelles, d'abord, on l'a ressenti et après, bon, bah, du coup, on s'est dit, je vais le faire. Et les chassidim disaient que ça, en vérité, c'est un très bon indicateur pour savoir est-ce que quelque chose vient du Yetzer Tov ou du Yetzer Hara. Des fois, il y a des choses où c'est pas facile de savoir est-ce que ça vient du bon penchant ou du mauvais penchant. Et la réponse est très simple. Tu dois te poser la question, est-ce que dès le départ, tu le voulais sans comprendre pourquoi? Si dès le départ, tu voulais sans comprendre pourquoi, c'est louche. Parce que l'âme divine, elle comprend ce qu'elle fait. Et une fois qu'elle a compris, c'est là qu'elle le ressent. Il y a deux démarches qui sont complètement contradictoires. Donc là, maintenant, on a développé un petit peu quel était le quartier général.
C'est un fridouche, là, tu viens de dire. Alors, on n'a pas eu ça au...
C'est impossible, là. Un truc comme ça, et dans le même temps, on a presque son cœur qui est complètement inerte. Il ne travaille pas.
J'ai pas dit ça.
On ne le fait pas.
Mais c'est constant. C'est constant. Il y a un aller-retour constant.
Oui, même si je fais cette action par ma tête, je peux aussi me tromper et faire une mauvaise action.
D'accord.
C'est pas parce que j'ai pris par la tête que...
Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un, il vient à un cours de Tania. Pourquoi il est venu au cours de Tania? D'accord. Non, mais sérieusement, pourquoi il est venu au cours de Tania? D'accord. Il y a deux approches. Soit il est venu peut-être parce qu'on lui a dit c'est sympathique, tu vas retrouver, il y a une ambiance sympathique, et on va dire un peu les chahis, on va manger. Soit parce que depuis le temps, il a réfléchi, qu'il lui faut un cours de Torah. D'accord? Donc il a réfléchi. Et avec le temps, il a réfléchi, et hop, à un moment, du cerveau s'est passé au cœur. C'est deux démarches différentes. Et dans notre vie, vous verrez qu'il faut, s'habituer à réfléchir comme ça, mais je suis sûr que juste dans cette semaine, en une semaine, là, vous allez voir, il suffit d'analyser un peu ce qu'il y a autour de nous et notre propre vie, et on va voir qu'il y a certains éléments pour lesquels on fait les choses de manière réfléchie, c'est-à-dire d'abord je réfléchis et après je le fais. Et malheureusement, il y a beaucoup d'autres choses, et c'est malheureusement pour nous, c'est la majorité des choses, dans lesquelles d'abord j'ai la pulsion et après je le fais. Je vous donne un exemple très simple. D'accord ? Un exemple très simple. Quelqu'un me dit une phrase, d'accord, qui m'a blessé. Je m'énerve. Après, je réfléchis pourquoi je me suis énervé. Mais c'est déjà trop tard. Parce que d'abord, la pulsion, elle m'a envoyé, elle m'a dit, maintenant, tu dois être énervé. Ouais. Après, le cerveau, il va réfléchir, il dit, oui, mais tu comprends, il m'a fait ci, il m'a fait ci, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Et après, du coup, des fois, tu sais même plus pourquoi t'es énervé. Parce que ça démarrait du cœur.
J'ai agressé le mec.
Si maintenant, c'est de l'autre côté, tu as réfléchi, 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 et le cerveau a créé la colère, c'est très très rare, ça. En général, c'est le contraire. Et c'est des exemples de la vie tous les jours, ça. Quelqu'un m'a dit quelque chose. Ça a démarré du cœur. Tu sais même pas pourquoi t'es énervé. Le cerveau ne sait même pas pourquoi il est énervé. Mais c'est comme ça. Je suis pas bien. Je suis énervé. Je tiens pas en place. C'est comme ça. Je vois quelque chose. Je l'aime. Je sais pas pourquoi. Parce que ça a démarré du cœur. Et malheureusement, la majorité de ce qu'on a dans la vie de tous les jours, ça tourne autour de ça. C'est que le cœur. C'est le cœur qui envoie des pulsions au cerveau. Et progressivement, il faut apprendre même 1% du temps à essayer de faire en sorte que c'est le cerveau qui domine le cœur. Pas le cœur qui domine le cerveau.
Mais ça, c'est beaucoup de travail, ça.
C'est possible d'avoir faim après avoir réfléchi.
Bien sûr. Oui. Il y a des gens. La Gemara raconte qu'il y a des gens, il y a des tzadikim, qui n'avaient pas faim. Jamais. Et dès qu'ils arrivaient à la fin de la journée, ils disaient à leurs élèves, maintenant il faut penser à la nourriture, il faut penser au corps. On verra plus tard, il est à la zakaï, c'était comme ça. Il n'avait pas faim. Il sentait pas la faim. Et dès qu'il arrivait à la fin du cours, il disait, bon, maintenant on va penser au corps. Et là, tout d'un coup, il dit, bon, maintenant on va penser au corps. Ah oui, c'est vrai, il a faim le corps, on va lui donner à manger. Mais c'est un niveau. D'accord, on n'est pas à ce niveau-là. On cherche pas à arriver à ce niveau-là. C'est simplement pour comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Oui.
Une question de Romain. Tu as dit tout à l'heure que le quartier général de l'âme animale, c'était le cœur.
Oui.
Tu as précisé que le côté gauche, là où le plus de sang, c'est la partie chaude, c'est la plus source de plaisir.
Les pulsions. Oui.
Donc le côté droit, c'est le côté positif de l'âme animale.
Ah, j'ai pas encore parlé du côté droit. Le côté droit, c'est juste après.
Alors maintenant, deuxième
question,
quand on met les têtes, on met au cerveau, et on le cœur.
Oui.
Alors est-ce que c'est quand on est en situation de faire la part avec les têtes, est-ce qu'à ce moment-là, juste pendant ce temps qui est relativement court, hein, à peu près 3/4 d'heure, 1 heure maximum dans la journée,
oui.
Est-ce que là, on donne à l'un et à l'autre, des deux cœurs, les armes pour pouvoir mieux se comprendre.
Évidemment, Shulchan Aruch dit ça. Shulchan Aruch dit clairement, il dit que c'est pas seulement qu'il le dit, c'est qu'on a l'obligation d'avoir cette kavana tous les jours quand on met les tefilines. Quand on met les tefilines, on doit avoir la kavana que le tefiline du bras c'est pour soumettre le cœur et le tefiline de la tête c'est pour nous rappeler qu'on doit soumettre son esprit à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'il y a vraiment deux quartiers généraux. Le monde de l'esprit, le monde de l'esprit et le monde du cœur.
Ce qui permettra après d'avoir un beaucoup plus efficace pour le cerveau par rapport au cœur.
Quand on met les tefilines, c'est un moment où on se rappelle du fait que on doit avoir la soumission à Kadosh Baruch Hu et donc on doit soumettre son cœur et son esprit.
Mais là, quand on fait ça, ça veut dire que en mettant les têtes sur la tête, on donne plus de pouvoir au cerveau pour maîtriser le corps.
Je sais pas, ça je sais pas.
Non, parce qu'il y en a qui
s'énervent. Ça je sais pas.
Enfin, on peut.
En tout cas, c'est un rappel.
Potentiellement, mais dans la pratique, c'est
plus. Je sais pas.
On peut retourner la question qui consiste à dire, est-ce que je dois faire ma prière avec ma tête ou avec mon cœur?
Avec ferveur.
C'est une bonne question. Merci.
Vous avez bien fait de la poser.
Merci. C'est une bonne question, mais je vais vous répondre comme un juif. D'accord. Je voudrais répondre comme un juif. Pour faire la prière avec son cœur, il faut d'abord utiliser son cerveau.
Ah, le cerveau, bon. Bah,
mais pour comprendre ça, il nous faut 2 ans d'études. Pour comprendre ce que je vous dis, il nous faut 2 ans d'études.
Je reviens la semaine prochaine.
Non, 2 ans, pas 2 mois.
Donc, utiliser son cerveau.
Bien sûr.
Moi, j'ai 2 questions. La première, c'est, tu as dit tout à l'heure que...
Il y a 2 âmes, il y a 2 questions.
L'âme divine, elle
est dans la tête, oui.
Donc, c'est plutôt elle qui devrait gagner souvent, vu que c'est elle qui a... Elle est plus proche du cerveau.
Donc. Ah non, pas du tout. Parce que des fois, il n'y a même pas de guerre. Des fois, on donne même pas la place au cerveau pour réfléchir. Quand l'information arrive au cerveau, c'est déjà « je le veux » et c'est tout.
On est impulsif.
La deuxième, c'est quand on fait les tarahamim.
Oui.
On tape sur le cœur.
Oui. C'est un symbole.
C'est un symbole qu'on tape aussi sur les tarahamim.
Bah oui, parce que les tarahamim, il est là, c'est de là que ça part.
Ah, c'est pour ça.
Bien sûr.
Alors oui, c'est marqué de Rol ta tête.
Parce que ça, on va expliquer après aussi.
Le but, au fait, c'est d'arriver à ce que la pulsion soit maintenant uniquement positive.
La pulsion est très importante, d'accord ? Évident, c'est bien que la pulsion est très importante. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour maîtriser la pulsion, il faut le cerveau. Mais ça, on va expliquer. Il va expliquer juste après dans la suite du Pérec. C'est quoi Bechol Levavecha ? Et que le but... En fait, dans ce Pérec, c'est très intéressant parce qu'il va nous expliquer qu'est-ce que l'âme divine veut. Il va nous présenter un prototype du juif idéal. Ça, vous allez voir, ça va nous prendre trois cours. Hein. Il va expliquer comment l'âme divine voudrait qu'on soit. Il va nous présenter un tzaddik. Tu dis, mais c'est pas possible. C'est ce qu'il attend de moi. On n'arrivera jamais. Personne n'y arrive. Mais au moins, on comprend qu'est-ce qu'il veut. Parce que pour comprendre quelle est la guerre, il faut comprendre qu'est-ce que chacun veut. Il réussira pas, mais c'est pas grave. Au moins, quand tu comprends ce qu'il veut, si même 1% du temps on a réussi, c'est déjà pas mal.
À quoi ça sert qu'il veut quelque chose qui est impossible à avoir ?
Bonne question.
Si la leçon de la création, c'est de faire en sorte que les éléments qui ont été mis pour être créés servent à Kadosh Baruch Hu, c'est bien pour qu'ils servent à Kadosh Baruch Hu. Or, ce qu'il demandait, si c'est impossible à atteindre par nature, donc ça veut dire que l'histoire est biaisée au départ.
C'est une bonne question, mais pour répondre, je ne vais pas répondre à la question tout de suite. C'est juste ce que je peux te dire, on verra plus tard, c'est que la question qu'on doit se poser, c'est quel est le but pour qu'on fait les mitzvot. Toi, tu dis c'est pour faire du chiffre.
Non, c'est pas pour faire du chiffre. Ah, si.
Donc tu dis, si on ne fait pas de chiffre, on perd notre temps.
Tu dis, on va décrire ici dans le truc, le but, comme le Yetzer Tov, il voudrait qu'on soit.
Akadosh Baruch Hu ne veut pas de chiffres. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de nous, c'est de voir qu'on fait des efforts. C'est tout.
Les
chiffres, c'est des mitzvot. Il y a des gens qui pensent le but, c'est de faire des mitzvot, faire que des mitzvot. Bien sûr que le but, c'est de faire des mitzvot. Mais si on sait que le prototype qu'on va nous présenter, personne n'y arrivera, alors pourquoi tu me le présentes? Parce que mon but, c'est d'essayer au maximum. Et après, il va attraper le point numéro 1, il va attraper le point numéro 2, chacun il va attraper.
Il met la dragée très haute.
Très très haute, exactement.
Plus généralement, juste une remarque. Quand tu vois un petit peu ce qui fait perdurer le peuple juif, c'est justement d'avoir beaucoup plus pensé avec son cerveau, alors que les autres, ils ont joué sur impulsion.
Bien sûr.
Les guerres, les trucs, c'est plus impulsif.
Mais c'est pas toujours facile. Bon, malheureusement, il y avait beaucoup de fois l'homme Israël qui n'était pas comme ça. Alors, on va continuer un peu. Ah, c'est pas seulement... Non, où j'en étais? Donc, Vegam Ola. Un joueur dans le français, où on en est?
Vegam Ola, en bas, là, page 100.
Voilà, page 130 en bas de la page. Vegam, Ola, la Mohar Shebarosh, les Chachev ou les Harer Bahem ou les Itrakem Bahem. De la même manière que le sang, le quartier général du sang, c'est quoi? C'est le cœur. Et que du cœur, le cœur va pomper et qui va renvoyer du sang partout, dans tout le corps, et inclus dans le cerveau. Même le cerveau, d'où il pompe son sang, le cerveau, il pompe du cœur. Donc le quartier général du sang se trouve où? Se trouve dans le cœur. Donc de la même manière, il dit que Moshe Adam Mekoro Balev ou Me'alav Mitpashet Lekol Ha'Evarim. De la même manière que le sang se trouve dans le cœur et que du cœur il se répand dans tous les membres, Vegam Olé la Mohar Shebarosh et qui monte aussi dans le cerveau qu'il y a dans la tête. De la même manière, les pulsions, d'où elles démarrent les pulsions? Une pulsion, ça démarre du cœur. C'est pas quelque chose que j'ai réfléchi. C'est pas quelque chose de maîtrisé. C'est quelque chose qui démarre du cœur. Et le cœur, après, il envoie la pulsion dans tout le corps. C'est pour ça qu'on voit, par exemple, des fois, quand on a une pulsion, c'est pas que le cerveau. Le cerveau, sa part, c'est de réfléchir comment je vais y arriver. Mais on voit, par exemple, une personne, quand il a une pulsion, il se met à trembler. Il se met à bouger. Il tient pas en place. Pourquoi il tient pas en place? Ses pieds, ils bougent. Pourquoi il bouge tes pieds? Pourquoi il bouge tes mains? Parce que son corps, exactement comme le sang, il est parti du cœur. Et l'image, c'est que le sang est parti du cœur et qu'il a été répandu dans le corps en entier, inclus dans le cerveau. De la même manière, quand tu as une pulsion, elle démarre du cœur et après le corps entier est pris par ça. Le cerveau, les mains, les pieds, les yeux, tout est pris par ça. Il a des yeux que pour ça, des oreilles que pour ça, il a les narines que pour ça. Il a sa pulsion, tant qu'il n'aura pas sa pulsion, il ne sera pas tranquille. Ça, c'est l'âme animale où tout démarre du cœur. Ah, seulement, mais comme Mishkan Nefesh HaElokit, cependant... L'endroit du siège de l'âme divine, où Mochin Shebarosh se trouve dans le cerveau, quand on veut le cerveau, ça veut dire qu'il est dans la tête. Où Misham Mitpashet Lechol Ha'Evarim. Le centre nerveux, l'endroit où les décisions sont prises dans le corps, c'est quoi? C'est la tête. Et c'est même la tête qui va donner l'ordre au cœur, est-ce qu'il doit fonctionner ou pas? La tête donne le contrôle sur tout. Et quand la tête arrête d'envoyer le signal, par exemple, si ma main a bougé ici, parce qu'il y a eu mon cerveau qui a envoyé un signal à ma main qui lui a dit « bouge ». Si, chas v'shalom, mon cerveau avait arrêté d'envoyer cette information, de lui dire, de donner cet ordre, c'est vraiment un ordre, c'est un quartier général, c'est un général qui dit « bouge ça, fais ci, fais ça ». Si, chas v'shalom, le cerveau s'arrêtait, les ordres ne seraient pas faits. Donc, le cerveau est aussi important pour donner des ordres pour le corps en entier, inclus au cœur. On est d'accord? Alors, c'est pas sûr, tu as raison. C'est pas sûr à 100% par rapport au fait que on peut rester vivant, comme on l'a dit tout à l'heure.
Bien que.
On peut rester. Mais comme a fait remarquer Raphaël tout à l'heure, c'est une mort. Concrètement, c'est une mort d'être comme ça. C'est une mort cérébrale, mais c'est une mort.
Pour la Torah, je ne sais pas si c'est une mort.
C'est une marloquette. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la personne n'est pas fonctionnelle.
Pour la loi, mais pour la Torah, c'est, je crois que c'est le cœur.
C'est une marloquette. C'est une marloquette. Est-ce que la, une grande marloquette, parce que tu sais, mort cérébrale, on peut rester des années aujourd'hui, mort cérébrale.
Non, c'est coma, c'est pas pareil. Mort cérébrale, c'est autre chose.
Normalement, mort cérébrale, on tient 3 mois. Maximum, en général. Une mort, hein, pas un coma. Une mort cérébrale, normalement, ça peut, on peut, le cœur peut tenir 3 mois. Comme ça, un docteur m'a dit.
Ouais. Parce que le cœur est un muscle involontaire.
Oui. Bon, enfin, on fait pas des. Je suis pas dans la médecine, mais c'est ce qu'on m'a dit. Alors, mais là, on arrive à votre question, M. Bergel. Que là, il dit le cerveau, il va donner des ordres dans le corps. Mais le cerveau, ça représente ce qui est réfléchi. Et donc, Rabotai, ce qu'il explique ici, c'est que. Le cerveau, il va donner les ordres. Il va donner les ordres inclus au cœur. C'est lui qui donne l'ordre au cœur de lui dire fonctionner. Seulement, la partie dans le cœur qui appartient au cerveau, c'est le côté droit. Le côté oxygène, le côté réfléchi. D'accord ? Parce que l'oxygène, c'est plus froid. L'oxygène, ça représente ce qui est froid. Et après, de l'autre côté, il y a le côté sang, c'est le côté qui est chaud. Le côté droit, c'est donc l'oxygène, ça représente le côté posé. Et le côté gauche, ça représente, comme on l'a dit tout à l'heure, les pulsions. Donc on a bien compris avec ça qu'il y a 2 centres dans le cœur, dans le corps. Il y a vraiment 2 quartiers généraux. Il y a le cœur qui est le quartier général des pulsions, et il y a le cerveau qui est le quartier général de toutes les idées et de tous les ordres du corps. Alors il explique ici, il dit, il continue, comme c'est écrit dans Kohelet de Shlomo Meller, c'est écrit Lev Chacham Limino. Shlomo Meller, vous savez, il s'exprime en quelques phrases à chaque fois, des fois quelques mots, et c'est très crypté. Par exemple, Shlomo Meller là-bas, il dit Lev Chacham Limino. Il dit le cœur d'un Chacham se trouve à sa droite. Alors les gens comprennent. Alors peut-être à l'époque, quand on n'avait pas ouvert le corps, on pouvait se dire bon, bah, peut-être celui qui est racham, son cœur est ici. Mais maintenant qu'on a ouvert le cœur et qu'on sait ce que c'est, on sait très bien que intelligent, pas intelligent, gaucher, droitier, le cœur est toujours à gauche. Alors qu'est-ce qu'il raconte Shlomo Meller quand il dit On est d'accord, d'accord. Gaucher, droitier, on n'a jamais vu un cœur à droite, ça n'existe pas.
Double cœur.
Alors, alors comment on peut expliquer que le cœur du racham est à sa droite? Comment on peut expliquer? Là, on a la réponse. Avec la réponse, la Mourazakan donne la réponse. Il dit, c'est très simple comment il faut expliquer ce pasouk. Lev Chacham Limino, ça veut dire que dans le cœur qui est à gauche, il y a le côté droit et il y a le côté gauche. Le côté droit, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'il représente? Il représente le côté posé du cœur. Le côté, donc ce qui est issu du cerveau. Le côté gauche représente le côté pulsion. Et donc c'est pour ça que Shlomo Meller, il te dit, Lev Chacham, le cœur d'un Chacham, c'est quoi un Chacham? C'est une personne qui a la chorma, c'est une personne qui se maîtrise. Limino, il est à sa droite. Ça veut dire que il a des pulsions qui sont maîtrisées. À droite, c'est les pulsions maîtrisées. À gauche, c'est les pulsions non maîtrisées. À droite, c'est les pulsions qui sont issues du cerveau. À gauche, c'est les pulsions qui démarrent tout seul. Et c'est pour ça que Shlomo Meller te dit, c'est une image, bien sûr, hein, pour répondre à ta question. Lev Chacham Limino, le cœur du Chacham se trouve à sa droite. Parce qu'un Chacham, un Chacham, c'est une personne qui apprend à faire en sorte d'avoir uniquement des pulsions maîtrisées. C'est très compliqué.
Comment mais c'est ce qu'il a. Arrivé à cette conclusion, Shlomo Meller?
Que quoi? Ça? Ben, quelle conclusion?
Inspiration.
On le voit clairement.
Non, comment il est arrivé à cette conclusion?
Inspiration. Que quoi?
C'est-à-dire que, arriver à affirmer ça.
Droite et gauche.
Voilà.
Ça, je sais pas. Mais c'est, médicalement, c'est comme ça. Il a un Rohar Kodesh, qu'est-ce que je dis? Il a une inspiration divine, c'est sûr, ça.
Donc, Mendy, pour finir avec la partie droite, donc, quand tu dis que c'est la partie posée qui maîtrise donc toutes les pulsions, elles sont forcément sous le contrôle du cerveau, elles sont toutes positives, dans ce cas-là.
Là, c'est parfait, là. Là, c'est le top, ouais.
Du SR top, dans ce cas-là.
Là, c'est le top. Quand, par exemple, la Torah me dit « Vesamarta bechagecha », elle me dit que quand ça arrive une fête, tu dois te réjouir. Maintenant, moi, je ne suis pas joyeux. Donc, je dois me mettre dans une situation de joie. Donc, je vais étudier un texte de Torah qui va me raconter la joie qu'il y avait, qui va m'expliquer pourquoi je dois être joyeux. Et hop, avec le temps, ça va descendre dans mon cœur et je vais me mettre à être joyeux. C'est mon cœur qui va être joyeux. Mais là, c'est le côté droit. Parce que c'est une pulsion qui est issue du cerveau. Alors qu'une pulsion qui démarre toute seule, c'est une pulsion qui démarre du côté gauche. Donc, on a bien compris le côté droit, le côté gauche. Et c'est ça pour répondre à votre question. Alors, c'est très important d'expliquer ici, parce que pour comprendre le combat, hein, il faut comprendre qu'il y a 2 quartiers généraux. Quand il y a 2 quartiers généraux, là, vraiment, on parle d'un vrai combat. Parce que, vous comprenez que, s'il y a 2 quartiers généraux, c'est-à-dire, ça veut dire que ça va continuer tout le temps, ça. On est d'accord? Imaginez, par exemple, que, à côté de Paris, il y a 2 quartiers généraux. Et qu'il y a 2 rois qui veulent prendre le contrôle de la ville de Paris. Tant qu'il y aura 2 quartiers généraux, il y aura toujours la guerre. Ça s'arrêtera jamais. Qu'est-ce qu'ils font en général quand on veut, qu'est-ce qu'ils font en général quand une armée veut attaquer et veut gagner la guerre? Elle va attaquer, qu'est-ce qu'elle va attaquer en premier? Le siège. Parce que si on arrive à attaquer le siège, on sait qu'on va gagner la guerre. Le problème, c'est que le siège du cœur et le siège du cerveau resteront toujours. Donc, en d'autres termes, la guerre ne s'arrêtera jamais. Jamais. Parce que les sièges sont toujours là. Le cœur est toujours là, le cerveau est toujours là. Donc, ça ne s'arrêtera jamais. Alors, Avraham a posé une question, il a dit, oui, mais qu'est-ce qui se passe pendant, quand on dit, par exemple, que le but, c'est de servir Dieu avec son cœur? Et on voit, par exemple, surtout, on dit que les tzadikim, ils arrivent à servir Dieu avec leur cœur aussi. Comment c'est possible? Ça, on va expliquer par la suite. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a deux cartes générales. Avec le temps, ce qu'on peut réussir à faire, c'est qu'on peut réussir à prendre le contrôle temporairement d'un quartier général. Ça, on peut le faire. Mais c'est temporairement. Ça veut dire qu'avec le temps, ça reviendra. Il n'y a rien à faire. Il y a un quartier général, deux quartiers généraux, il n'y a rien à faire.
Là, ce qu'on est en train de dire, là, ce cadre des deux quartiers généraux de l'âme animale et de l'âme divine,
oui.
Elle s'exprime de la même manière pour l'homme et pour la femme ou c'est s'exprime de
manière... Ah oui, c'est la même chose. Oui, c'est kiff-kiff, oui, bien sûr. Hein. Ouais, ouais. Même chose. Oui. J'ai compris. Mais c'est que la question, c'est une bonne question ce que tu poses, mais là on n'a pas encore défini ce que c'est la volonté. C'est quoi la volonté?
Pour moi, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a accordé à l'homme de motivation, de volonté, de
départ. Où elle se trouve la volonté? Elle se trouve dans le foie. On va expliquer plus tard dans le Tanya, que le Mora Zaken va expliquer que la volonté, c'est quelque chose qui ne peut pas être défini. La volonté et la joie. C'est quelque chose qui n'est pas lié à un membre spécifique. La preuve, c'est qu'on voit que lorsqu'une personne veut quelque chose, son corps entier ne tient pas en place. Ça veut dire que la volonté n'est pas liée ni au cerveau, ni au cœur, ni à la main, ni au pied. C'est le corps entier qui est pris par ça. Mais la volonté, c'est encore plus profond que ce qu'il y a de tout ça. La volonté, c'est la décision. C'est moi qui décide.
C'est ça, c'est la première chose.
Oui. Alors, pour répondre à ta question de la volonté, en vérité, ce qui se passe, je vais répondre, c'est une très bonne question ce qui pose Michael. En vérité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a deux rois. Il y a deux quartiers généraux. Il y a un roi qui s'appelle l'âme divine, un roi qui s'appelle l'âme animale. Et c'est moi qui va décider avec ma volonté à qui je laisse la place. C'est-à-dire qu'en vérité, il n'y a pas deux acteurs, il y a trois acteurs. Il y a l'âme divine, Rabotai, vous suivez ?
L'âme animale et moi.
L'âme divine, l'âme animale et moi. C'est qui moi ? Moi, c'est celui qui va décider à qui je laisse la place.
L'âme vitale,
l'arbitre.
L'arbitre. C'est l'arbitre. Il va l'appeler l'arbitre. C'est l'arbitre. C'est lui qui décide. C'est moi qui décide. Est-ce que maintenant, c'est moi qui va décider maintenant, est-ce que je vais avoir une pensée tordue dans ma tête, donc ça voudrait dire que je laisse la place à l'âme animale, ou est-ce que j'ai une pensée positive dans la tête, ça veut dire que j'ai laissé la place à l'âme divine. C'est moi qui décide.
Et moi d'où je viens alors?
Moi d'où je viens? Moi c'est le Nefesh. Mais c'est pas l'âme divine. Ça n'a rien à voir. C'est le Ratson. Ça, on va expliquer après. Mais déjà, avant d'expliquer moi, il faut d'abord expliquer quel est le combat. C'est-à-dire avant même que je démarre, j'ai rien fait moi, j'ai même pas décidé encore. Avant même que l'arbitre il dise son mot, il y a un combat qui se passe à l'intérieur. Et ils sont là, ils se battent, et ils se battent, et ils se battent, il n'y a rien à faire. Moi, ce que je vais décider, c'est à qui je laisse la place. Je pousse un, je mets l'autre à la place. Mais entre temps après, l'autre il repousse l'autre, et il revient. Et je repousse, et je repousse, et je repousse, et je repousse. Et ça ne s'arrête pas. C'est comme ça.
Un instinct, ça vient du
cœur. L'instinct, c'est du cœur.
Donc l'instinct de survie, c'est le cœur.
C'est le pulsion, oui, c'est une pulsion.
C'est
le cœur.
C'est le cerveau reptilien.
C'est
l'âme animale.
Tandis que l'homme, le cerveau reptilien, c'est la peur. On a petit... Si on n'avait pas peur, on se mettrait en danger.
Est-ce qu'il est possible de maîtriser?
Tu donnes à ton voisin.
Avec le temps.
Avec le temps, oui.
Tu vas contrôler, tu vas essayer de maîtriser, mais tu ne peux pas annihiler la peur, tu ne peux pas annihiler beaucoup.
On peut contrôler ça.
Ton voisin.
Ceux qui sont formés dans les services secrets et tout, par exemple, ils apprennent à contrôler ça.
Parce que ça veut dire que tu fais rentrer ta tête.
Le cerveau.
D'après l'Admorazaken va expliquer que la seule raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu peut nous récompenser pour les mitzvot et nous punir pour les averot, c'est parce que on a la emouna qu'un juif peut maîtriser la situation. Sinon, tu peux pas me récompenser, tu peux pas me punir. Et donc, il faut expliquer que peu importe la situation, je peux maîtriser. Peu importe le contexte dans lequel je vis, peu importe, d'accord? Après, on trouvera toujours des circonstances atténuantes. Ça, y a pas de problème, on te jugera pas, y a pas de problème. Mais un juif, et pas qu'un juif, d'ailleurs, le monde entier, tous les hommes, Dieu leur a donné un cerveau qui domine le cœur. Et ça, il expliquera plus tard que c'est betul dato. Ça veut dire, c'est, l'homme de série, il a ça. Il n'y a pas besoin de travail pour ça. Que le cerveau a la capacité de dominer le cœur. C'est comme ça.
Donc il faut réfléchir avec ça.
Mais c'est un travail. C'est un travail parce que effectivement, malheureusement, ce qui se passe en général, c'est que le cœur, c'est le cœur qui envoie, et bon, le cerveau, il dit, il va réfléchir comment y arriver.
La routine, tu la mets dans quelle catégorie ?
C'est la pulsion aussi. Tout ça, c'est les pulsions, ça. La
routine, c'est une pulsion.
Oui.
C'est le matin, je m'attends à par routine, c'est une pulsion.
Une pulsion, c'est les choses qui démarrent tout seul.
Et c'est devenu une pulsion, ah, donc c'est positif.
Positif, oui, c'est pas, y a pas de problème.
Qui vient du cœur droit.
Mais c'est, mais c'est une pulsion.
Qui vient du cœur droit.
Oui, mais c'est une pulsion. Ça veut dire que
c'est
ça.
Pas, c'est pas mauvais.
C'est pas mauvais. C'est mais le problème d'une pulsion, c'est que aujourd'hui, ça me tente. Aujourd'hui, ça me tente. Et si demain, ça me tente pas, qu'est-ce que je fais?
Ah oui. Parce que la routine est venue après réflexion. J'ai fait ça en réfléchissant une fois, deux fois, trois fois.
Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Mais il faut pas rester dans la routine. Parce que le problème de la routine, quand on compte sur la routine, le jour où ça marche plus, qu'est-ce qu'on fait? Le jour où je suis plus attiré, qu'est-ce que je fais? Voilà, il faut tout recommencer.
Donc,
on a toujours le réveil. Donc automatiquement, c'est obligé de me réveiller.
Oui.
Le réveil, ça me réveille. Même c'est si c'est la routine, intérêt. Même si à un moment je suis plus attiré, il y a toujours mon réveil pour me réveiller. Donc une fois que je suis réveillé, il va falloir que je trouve une occupation. Le seul truc que j'aurai à faire, ce serait d'aller à la
villa. Je peux me rendormir.
Bah non.
Ah bah oui. Ah ça va si. Tu vas comprendre ça bientôt si tu veux.
Il y aura toujours quelqu'un pour te réveiller.
Tu vas comprendre ça dans quelques années. Je te promets, tu peux te rendormir jusqu'à midi sans aucun problème.
Je finis ma
après je vais dormir. Ok. Moi je comme c'est écrit. Ça, bon, on va développer ça par la suite, d'accord ?
Ça peut pas être réfléchi.
On va développer ça par la suite. Là, déjà, pour l'instant, on essaie juste de comprendre le fait qu'il y a deux quartiers généraux. C'est pour comprendre quel est le combat. On va essayer de rester plus général. De toute façon, toutes vos questions, on va les développer. Mais si Sirout Nefesh, pour répondre à ta question, c'est le chapitre 18. Il y a du temps, mais tout est là, d'accord ? C'est même pas dans le schéma, là. Chapitre 18. Alors, comment chez Katouf, comme c'est écrit, Lef Chacham Limino. Le cœur du Chacham se trouve Limino à sa droite. Ça veut dire quoi? La partie droite du cœur. C'est quoi la partie droite du cœur, à Botaï? Vehi, Ahavat Hashem, Kirishpe, Shal Evet, Mitla Evet, Belev, Maskilim. Ça veut dire que, c'est quoi le cœur du Chacham qui se trouve à sa droite? C'est une pulsion qui est issue du cerveau. Par exemple, il va aimer Hachem. Pourquoi il va aimer Hachem? Pas parce qu'il s'est levé un matin et qu'il a dit « Tiens, je suis attiré par Hachem ». Ça n'existe pas, ça. C'est parce qu'il s'est levé un matin, il a réfléchi à la grandeur d'Hachem, il a réfléchi, il a étudié, et avec le temps, « Amevinim, umidbolinim, bedata, machar, bemocham, bidvarim, amorir, meta, ahava ». Comme on l'a expliqué dans le chapitre 3. Il a réfléchi dans son cerveau des choses qui vont éveiller l'amour. Et après, avec le temps, le cerveau va faire naître une pulsion. Ça veut dire qu'avec le temps, il va sentir qu'il sent quelque chose. Mais c'est un travail qui est très très long. Vren, pareil. Simchat levav, betiferet Hashem vadar geono. La joie du cœur. Il va se réjouir d'Akadosh Baruch Hu, se réjouir d'être un juif. Ashreinu matafrelkenu, comme on dit tous les matins, comme on chante aussi. Nous sommes heureux. Combien est belle notre part. Combien on est reconnaissant que dans les milliards des gens qu'il y a dans le monde, d'accord? Nous, on fait partie d'une minorité de chez minorité de gens qui ont un sens dans leur vie et un sens particulier. Et dans cette minorité, on est des gens religieux. Et dans cette minorité, on vient un cours de Tania. Ashreinu matafrelkenu, on est heureux. Bien sûr qu'on est heureux. Mais ça, pour être heureux, ça, c'est pas venu du jour au lendemain. Hein. C'est pas tu te lèves un matin, tu dis, hop, je suis heureux. Ça marche pas comme ça. Il faut une réflexion. Il faut une grande réflexion. Il faut une mitbonen. Et mitbonenu, il faut beaucoup réfléchir. Ça a démarré du cerveau. Et le cerveau a créé quelque chose dans le cœur. Kaacher et inea chacham, asher berosho. Quand les yeux du chacham, qui sont dans sa tête. Alors, évidemment, les yeux sont dans la tête. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Parce qu'il faut comprendre que quand on parle des yeux, il y a les yeux physiques, mais il y a aussi les yeux du cerveau. Les yeux du cerveau, ça veut dire l'imagination. D'accord? Essayez d'imaginer. Parce que le cerveau a des yeux. Le cerveau, il peut s'imaginer des choses. Il y a quelque chose que tu... Bien sûr, on peut fermer les yeux. D'ailleurs, quand j'explique quelque chose à quelqu'un et qu'il a bien compris, il dit « je vois ce que tu veux dire ». Mais s'il n'a pas bien compris, il dit « j'entends ». S'il ne veut pas t'écouter, il dit « j'écoute ». Alors... Mais il a son cerveau qui voit, il s'imagine. Le cerveau, il a Eineh, ce qu'on appelle Eineh Sechel.
Même si t'as jamais eu l'image du coup de...
Oui, bien sûr, on peut s'imaginer. Il s'imagine. Après, il s'imagine comme il peut. Donc, Eineh Sechel, qu'est-ce qu'il va faire le Chacham? Parce que encore une, là on parle de quoi? On parle de la Kadosh Baruch Hu. Est-ce que la Kadosh Baruch Hu, je l'ai vu avec mes yeux? Je l'ai pas vu avec mes yeux la Kadosh Baruch Hu. Donc je suis obligé de faire appel à mon cerveau, aux yeux de mon cerveau, pas aux yeux de ma tête. Les yeux de ma tête n'ont jamais vu la Kadosh Baruch Hu. Ils connaissent pas. Moi en général, je crois ce que je vois, je l'ai pas vu. Donc tu es obligé de faire un travail dans ton cerveau pour dire c'est vrai que je le vois pas avec mes yeux. Donc je vais essayer avec mon cerveau de réfléchir où je vois quand même la Kadosh Baruch Hu. Et quand le cerveau réfléchit, ça veut dire ah, là j'ai vu ce petit détail, j'ai vu la présence de la Kadosh Baruch Hu, j'ai vu une Ashgacha Pratit par ici, j'ai vu une providence divine par ici, j'ai vu ça par-ci, j'ai vu ça par-là. Mais ça il faut un travail de réflexion. Et avec le temps quand le cerveau va réfléchir, d'accord? C'est exactement comme pour les pulsions. Comment vient une pulsion dans le cœur? Une pulsion par exemple de faire une bêtise, d'accord, avec une femme. Comment vient cette pulsion? Les yeux ont vu, mes yeux physiques ont vu, après hop, ça part, et après le cœur il s'en va. Ben, c'est la même chose spirituellement, les Avdil. Mes yeux de mon cerveau ont vu, ça veut dire quoi? Ils se sont imaginés la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et ils vont essayer de s'imaginer quelque chose qu'on ne peut pas voir, et avec le temps, ça va générer une pulsion qu'il y a dans le cœur. Ça, c'est une pulsion qui est générée du cerveau. C'est ce qu'il dit ici. Donc, Mistaklim Beikara de Malka, je reprends, Vetif Erez Doulato Adentreker. On va s'imaginer combien Kadosh Baruch Hu est grand, et qu'il est tellement grand qu'il est insondable. Ensof Vetachlit, et qu'il est infini. Et qu'on peut même pas comprendre quel est son but. Parce qu'on comprend, avec le temps, plus on comprend, et on comprend qu'on n'a pas compris. Kimevoab, ma comarère, comme on s'explique ailleurs, comme on expliquera plus tard. Vechen, pareil. She'ar Midot Kdoshot Shebalev. Toutes les midot, les traits de caractère kadosh qu'il y a dans le cœur, donc les bons traits de caractère, en, mechorma, bina, da'at, et momochin, ça vient de la réflexion. Alors, c'est quoi les autres midot? Par exemple, la crainte de Dieu. Vous croyez que du jour au lendemain, on se lève, on a peur de Dieu? Ça marche pas comme ça. J'ai pas peur, je l'ai jamais vu. De quoi tu veux prendre Dieu que j'ai peur? Un enfant, il a pas peur. Quand on va réfléchir, on va lui expliquer, et qu'après il va analyser ce qui se passe dans le monde, et qu'il va comprendre qu'il y a des choses qui nous dépassent, alors quand on comprend qu'il nous dépasse, à un moment il va avoir, comment il dit, il va avoir la peur. Pourquoi il va avoir la peur? Parce que ça c'est une peur qui est issue de la réflexion. D'accord? Haf, voilà, haf, je cherchais le mot. D'accord? Haf. Parce qu'on dit comme ça, on dit, ira, ba, moar, pachad, belev.
Je suis pas né là-bas pourtant. Hein.
D'accord? Ira, la crainte, elle est pas morte dans le cerveau. Pachad, belle. On avait fait une fois un cours dans lequel on avait expliqué, par exemple, imaginez qu'il y a un loup qui débarque dans la salle. On va tous trembler. C'est notre cœur qui va trembler. J'ai pas besoin de m'expliquer que c'est dangereux. Mon cœur va trembler. Et je vais me sauver. Enfin, je sais pas ce que je vais, mais je vais me sauver parce que mon cœur, tout de suite, il y a une pulsion. Par contre, si je vous parle de la bombe atomique d'Ahmadinejad, il marche mot. Est-ce que mon cœur tremble? Non. Pourquoi mon cœur ne tremble pas? Parce que je suis pas à proximité. Mais quand mon cerveau va réfléchir au danger que ça représente pour la terre d'Israël, pour le Ham Israël en général, pour le monde en général, là, le cerveau va faire comprendre au cœur quelque chose de sérieux. Et là, le cœur peut sentir. Là, on vient de voir l'exemple entre une peur qui est issue du cerveau et une peur qui a démarré toute seule, sans que je l'ai maîtrisée. La peur du lion, c'est une peur qui démarre du cœur. La peur d'Ahmadinejad et Marchemo, c'est une peur qui a démarré de la tête. Comme ça, le Rav Sanzel s'explique ce périncle-là. Ça veut dire que, de manière générale, tout ce qui vient de la Kdusha, ça démarre du cerveau. Tout ce qui est positif, ça démarre du cerveau. Le cerveau a réfléchi, le cerveau a maîtrisé, le cerveau a compris que je dois aimer, et hop, avec le temps, ça descend. Tout ce qui n'est pas de la Kdusha, en général, ça vient de l'autre côté. Ça veut dire, ça démarre du cœur, le cœur d'abord dit je le veux, et après le cerveau réfléchit. Comment je vais arriver. Et donc, comme on a expliqué tout à l'heure, les chassidim avaient l'habitude de dire que pour savoir si une pulsion est positive ou négative, il faut se poser la question, est-ce que la pulsion est venue en première ou est-ce que la réflexion est venue en première? Je vais vous donner un exemple pour illustrer ça. Imaginez, par exemple, ma femme, elle me le demande, elle me dit, est-ce que tu veux dimanche qu'on aille, Ikea, voilà, allez. Est-ce que tu veux dimanche qu'on aille chez Ikea? D'accord? C'est un grand kiff, d'accord, d'aller chez Ikea, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je réponds? Je réponds non. D'accord? Je réponds non. Après, elle va me dire, pourquoi t'as répondu non? Là, je sais pas encore pourquoi j'ai répondu non. Mais je vais réfléchir, et je vais lui trouver des raisons. Je vais lui dire, écoute, tu sais, parce que je vais être fatigué, parce que j'aurais ça à faire, etc. Mais la raison, elle est venue après le non. D'accord? C'est pas directement, j'ai réfléchi, je dis, ah, je reviens dans l'agenda, il y avait ça. Non. J'ai dit non d'abord. Peut-être je l'ai pas dit, dans ma tête, j'avais déjà dit non. Dans ma tête, je veux pas y aller. Seulement, comme il faut trouver une raison, dans mon cœur, je veux dire. C'est-à-dire, dans mon cœur, je sais déjà que c'est non. Je veux pas y aller. Seulement, comme il faut trouver une raison, je veux pas lui dire non comme ça se fait pas. D'accord? C'est honteux. Alors, je vais trouver une raison. Je veux dire, écoute, tu sais, en fait, il y avait ci, ici, il y avait ça. Et en fait, on sait même pas s'il y aura. Où est le problème qui est ici? Le problème, c'est que ça a démarré du cœur. Ça n'a pas démarré de la tête. C'est pas que quand on m'a présenté la chose, j'ai réfléchi et j'ai compris qu'il y a un problème et j'ai dit, écoute, il y a un problème. Non, ça a démarré du cœur. c'est pour ça que c'est pas bon. Ma réponse n'était pas bonne.
Non, mais non, mais lui,
j'ai pas le droit de répondre non comme ça. Mais non, on le fait tous. Ouais, on le fait tous.
Ouais, mais alors, ça veut dire.
Ou bien on verra. On verra quoi alors.
Alors, ça veut... Il y a des gens qui arrivent quand même à avoir des plus.
Ouais, bah, on verra, ça veut dire on va réfléchir.
C'est ce qui est inné. C'est le, enfin, c'est ce qui est la routine.
Non, même pas. Ils ont jamais un bal, Chouva. Il n'a pas réfléchi. Un jour, il a une lumière comme ça, et tout d'un coup, il a des pulsions que même nous, on n'a pas.
Ah non, pas du tout.
Ça a pris du temps.
C'est venu nulle part. Non, 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 non. Voilà. Ça, donc encore une fois,
c'est
bien sûr que ça vient de la tête.
Akadosh
Baruch Hu, bien sûr, Akadosh Baruch Hu, il met en sorte, il met dans la tête d'une personne, il lui dit tu dois faire ça maintenant. Des fois, l'aide du ciel, c'est que des fois, Akadosh Baruch Hu, il nous met des informations dans la tête, il nous met des certitudes dans la tête, des choses que normalement ça prend du temps. Tout d'un coup, tu te lèves un matin, tu te dis il faut que je fasse ça. Pourquoi il faut?
Parce que
il faut que ça démarre du cerveau. Il faut que dans mon cerveau j'ai une certitude. Celui qui fait teshuva par exemple, il se lève un matin. C'est pas qu'il sent qu'il veut. Il se lève un matin et tout d'un coup il a une certitude. Il se dit il faut que je change. Tac, c'est une certitude. C'est-à-dire Dieu lui a mis une cartouche, tu vois, dans la tête. Tac, il lui a mis un truc, une option. Il lui a mis une nouvelle disquette. C'est comme ça. C'est un chesed d'Akadosh Baruch Hu. Des fois tu te lèves le matin. Les autres ils ont travaillé des années pour avoir ça. Tu te lèves le matin. Tac, on t'a mis une mise à jour. T'as tapé un code. T'as tapé un nouveau monde. Hop, et maintenant c'est fini. T'es venu. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire la mitzvah. Mais bon, on peut retomber après.
Une disquette.
On est passé au monde numéro 25, hein, David. Alors, donc c'est ce qu'il explique ici. Donc, où on en est maintenant? On a expliqué, le but de ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a dans notre corps deux quartiers généraux, le quartier généraux du cerveau, le quartier généraux du cœur. Le cœur, c'est le quartier général, on a expliqué, de l'âme animale. Le cerveau, c'est le quartier général de l'âme divine. Alors, c'est le cœur, c'est pas le cœur physique, mais on a expliqué, le cœur, c'est les pulsions, et le cerveau, ça représente la réflexion. D'accord. Ah, cependant, inactif, c'est écrit, ou l'homme, mille hommes, yémats. Maintenant qu'on a compris qu'il y a deux quartiers généraux, on va expliquer maintenant que maintenant, ces deux quartiers généraux, ils sont en guerre. Il y a une guerre constante. Et quand je dis que c'est une guerre constante, c'est écrit, ou l'homme, mille hommes, yémats. Rivka, lorsqu'elle avait dans son ventre deux enfants, elle a compris qu'il y avait un problème. Parce qu'elle a vu, quand elle passait à côté d'une yeshiva, elle sentait que ça tirait d'un côté du ventre. Quand elle passait à côté d'une maison d'Avodah Zara, elle sentait qu'il y avait un autre côté du ventre qui tirait. Elle savait pas encore qu'elle avait des jumeaux. Alors elle est partie voir Shem qui était le roi yeshiva de l'époque. Elle lui a posé la question. Elle lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi des fois ça tire là, des fois ça tire là? Il y a un problème, c'est pas normal. Qu'est-ce que lui a répondu Shem? Shem lui a répondu, il lui a dit, c'est pas un enfant que tu as, mais tu as deux jumeaux que tu as dans ton ventre. Et ces deux jumeaux, ou les hommes, mille hommes, yématz. Ça veut dire, il y aura toujours un plus fort que l'autre. Et quand un sera fort, l'autre sera en bas. Quand l'autre sera en bas, l'autre sera en haut. Et ce sera toujours comme ça, comme une balance. Et en fait, il lui a prédit ici qu'entre Yaakov et Esav, Yaakov représente Israël, Esav représente l'Occident, il y aura toujours un plus fort que l'autre. Quand un sera en haut, l'autre sera en bas. Quand l'autre sera en bas, l'autre sera en haut. Il n'y a rien à faire. Et bien, de la même manière, dit le Shnei Luchot HaBrit, il dit que Yaakov et Esav, c'est l'équivalent de l'âme divine et l'âme animale. L'âme divine, c'est Yaakov. L'âme animale, c'est Esav. Et c'est les hommes mille hommes. Jamais les deux peuvent être forts en même temps. C'est impossible. À chaque moment de la journée, une fois c'est un qui est plus fort, une fois c'est l'autre qui est plus fort. Maintenant, c'est un ping-pong constant toute la journée. Ça veut dire que des fois, une heure, ça peut être le Yitzhara qui est plus grand. Tu rentres à la maison, tu t'es énervé, hop, c'est fini. Pour trois heures, c'est reparti, c'est le Yitzhara qui est plus fort. Après, tu repars, c'est le Yitzhara qui reprend. Et c'est un ping-pong constant. C'est exactement comme Israël et les nations. Quand un est en haut, l'autre est en bas. Quand l'autre est en bas, l'autre est en haut. Parce que c'est dans les mots, c'est où les hommes, mille hommes, yématz. Ça veut dire, un sera toujours plus fort que l'autre. Ça veut dire, littéralement, ça veut dire, il sera plus fort que le plus fort. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un qui sera plus fort que le plus fort, plus fort que le plus fort, plus fort que le plus fort. Toujours il y aura un qui est en haut, l'autre qui est en bas. Pourquoi? Qui a gouf, le corps, nikra irktana. Toujours dans Kohelet, là-bas, de Shlomo Melech. Le corps est comparé à une petite ville. Pourquoi une petite ville? La Gemara, elle raconte comme ça. La Gemara, dans le traité Nedarim, elle développe comme ça. Elle dit, c'est comme, alors je vais vous lire dans les mots, parce que là, il dit, etc., il explique pas ce que c'est. Je vais vous lire dans les mots le pasouk. Il dit, ir ktana va anashim bameat. Il y avait une petite ville, dans laquelle il y avait peu de personnes. Uba Elea Meler Gadol est venu dans cette ville un grand roi. Umatsaba chacham, et il a trouvé dans cette ville un chacham. Explique la Gemara Nedarim. En vérité, cette petite histoire que je viens de vous raconter, c'est l'histoire de notre corps. C'est quoi la petite ville? C'est le corps. Pourquoi? Parce que le corps, on dit bien que c'est un microcosme. Il y a le macrocosme, il y a le microcosme. Tout ce qu'il y a dans le monde, il y a dans le corps. De la même manière que dans le monde, par exemple, il me semble qu'il y a 70% d'eau et 30% de terre. De la même manière dans notre corps, d'accord, 70% d'eau et 30% de chair. C'est la même chose, parce qu'il y a la même chose, c'est exactement la même chose. Il y a beaucoup de similitudes entre le corps et le monde. Microcosme, macrocosme. Alors, le corps est appelé Ir Ktana. Shlomo Meller, il dit que le corps est appelé une petite ville. Et dans cette petite ville, il y a un grand roi et il y a un chacham. Pourquoi on l'appelle, c'est qui le grand roi? Le grand roi, c'est le Yetzirara. Pourquoi on l'appelle le grand roi? Parce qu'il est puissant. Et il est plus puissant que l'âme animale. Pourquoi, que l'âme divine. Pourquoi il est plus puissant? D'abord parce qu'il est venu en premier et parce que c'est plus tentant. Comme disait Rabbi Levi Tzrek Vaditchev, il disait une fois, il disait à Kadosh Baruch Hu, c'est pas juste. Il a dit, les plaisirs de ce monde, tu les as mis devant nos yeux. Et les plaisirs de la Torah, tu les as mis dans les livres. Si tu avais fait le contraire, tu avais mis les plaisirs de ce monde dans les livres et les plaisirs de la Torah dehors, je te garantis que personne n'aurait fait d'avérante. C'est pour ça que le Yetzirah, on l'appelle un grand roi, parce qu'il est imposant. Et tu ouvres tes yeux, tu vois que lui. Tu mets tes oreilles, t'entends que lui. Tu sens, t'entends que lui. Donc c'est un grand roi. Mais, d'un autre côté, là-bas, Shlomo Meller, il dit, ce roi était grand, mais fou. Bête. D'un autre côté, il y a un petit, mais il est haram. Ça, c'est l'âme divine. C'est le petit juif comme ça, qui est là avec ses petits coups comme ça, le petit David. D'accord? L'autre c'est un Goliath, il est imposant, il est grand. L'autre c'est un petit David. Mais le Goliath, il est bête. Donc c'est exactement l'histoire de l'âme divine et l'âme animale. L'âme animale, il est grand, il est imposant, il est là, etc. Mais il veut faire des bêtises. D'un autre côté, il y a un petit Etzertov qui est tout petit, mais lui, il a des petits coups par-ci par-là pour essayer de récupérer l'attention. Mais il a beaucoup de mal. D'abord parce qu'il arrive avec 13 ans de retard, parce qu'il se dévoile seulement à la bar mitzvah, comme on a expliqué dans le premier cours. En plus, et l'autre est très imposant, donc il a beaucoup de mal. C'est ça la petite ville. Maintenant, qu'est-ce que dit Shlomo Meller dans Kohelet? Il dit que c'est une guerre constante entre le grand roi et le petit chacham, comme David et Goliath. Il y a une guerre constante. Et une fois c'est un qui gagne, une fois c'est l'autre qui gagne. L'avantage qu'a le grand roi, c'est qu'il est imposant. L'avantage qu'a le chacham, c'est qu'il est intelligent. Et c'est une guerre constante. Des fois c'est le chacham qui gagne parce qu'il est intelligent. Des fois c'est l'autre qui gagne parce qu'il est imposant. Théoriquement. Le génie, normalement, devrait toujours gagner, parce qu'il est chacham, il est intelligent. Et avec une bonne stratégie, il peut tout gagner. Mais seulement, il faut toujours être sur le qui-vive. Il faut toujours être là à réfléchir d'où il va venir. L'autre, il est tellement imposant, il bouge son doigt de pied, il t'écrase. Donc, il est imposant, il est très imposant. Mais si tu réfléchis, tu peux te sauver. D'accord? Tu peux bouger, mais il faut être constamment sur le qui-vive. Et donc ça, dit l'Admor HaZaken, c'est l'image qui est expliquée dans Kohelet, du roi, du grand roi, ou peut-être même de deux rois. Donc, il y a un roi, le grand roi, c'est l'âme animale, et le petit roi, qui est Chacham, ça c'est l'âme divine. Ukmo shne melachim, on va finir juste avec ces deux, trois lignes, après on continuera sur ce thème la semaine prochaine. Ukmo shne melachim nilchamim al iracha, de la même manière que deux rois se battent sur une ville. C'est pas que les deux rois, hein, chacun veut une autre ville. Sinon, il n'y a pas Shalom al Israël, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que les deux rois veulent la même ville. La ville, c'est quoi? C'est le corps. L'âme divine et l'âme animale, les deux veulent prendre le contrôle du corps. Chacun veut que les pensées seront, c'est lui qui va gérer les pensées, c'est lui le maître à bord. L'âme divine veut que les pensées seront cachères, l'âme animale veut que les pensées ne seront pas cachères. L'âme divine veut qu'avec mes mains je mette la tzedaka, je fasse une mitzvah, l'âme animale veut qu'avec mes mains je fasse une avera. Ça veut dire qu'ils veulent prendre le contrôle et ils sont avides de contrôle. Et vous savez comment c'est le contrôle? Le contrôle, plus on en a, plus on en veut. Et c'est comme ça. Il n'y a rien à faire. C'est pas tu veux dire, mais attends, ça va, on t'a donné le cerveau, reste tranquille, les garçons. Non. Le contrôle, plus tu en as, plus tu en veux. C'est comme ça. Et ben, c'est la même chose. Le Yetzirah, plus tu lui en donnes, plus il en veut. Le Yetzirah aussi. Plus tu lui en donnes, plus il en veut. Chez Kol Echad, Rotze, les Kavsha, Velimloch Alea.
C'est pas parce que tu donnes recours au Yetzirah qu'il est à l'abri
du... Ah, bah, jamais. On n'est jamais à l'abri du... Alors, je préfère vous rassurer depuis maintenant, on n'est jamais à l'abri du Yetzirah. Ça n'existe pas.
Vigilant.
On peut être vigilant, d'accord? Mais pac, c'est pas où ça va te tomber. Il faut constamment être vigilant. Et c'est comme dans un jeu. À quel moment tu perds? C'est quand tu perds la vigilance. Au début tu gagnes, c'est facile parce que t'es vigilant. Mais quand après tu perds la vigilance, tac, c'est là que tu tombes et c'est là que tu casses la figure. C'est la même chose avec le Yetzirah. Tant que t'es vigilant, ça marche. Mais après, à un certain moment, la vigilance s'arrête un petit peu ou elle s'atténue. Et hop, c'est là que tu casses la figure. C'est la même chose. Donc. Juste, je termine de ligne. Chez Kol Echad Rotze le Kofshav et l'Imloch Alea, Daïnou Lohani Goshva Kirtono. Chacun des deux rois veut maîtriser, conquérir, régner. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que chacun des deux rois veut prendre le contrôle des habitants de la ville. Chacun des deux rois veut que les habitants de la ville se comportent comme il veut. Il ne veut pas seulement prendre le contrôle. Parce que des fois, il y a un roi qui prend le contrôle de la ville, mais les gens de la ville ne le supportent pas. Ça, le roi, il ne veut pas ça. Le roi, il veut prendre le contrôle de la ville physiquement, mais il veut aussi que les gens de la ville l'adorent. Et plus on lui donne, et plus il en veut. Et même si on va lui dire que 99% de la ville t'adore, mais qu'il y a 1% qui t'aime pas, il va dire oui, mais lui, il m'aime pas. Eh, il est pas tranquille. Même s'il y a une personne sur des millions, il est pas tranquille. Oui, mais lui, il m'aime pas. C'est la même chose. Le Yetzerara, tant qu'il a pas pris chaque partie du corps, il ne sera pas tranquille. Le Yetzer Tov aussi. C'est une guerre constante. Une guerre, chacun veut conquérir un maximum. Vesheyu Sarim le Mishmaato Bechol Asher Ixor Aleihem. Donc chacun des deux rois veut prendre le contrôle de la ville. Et chacun veut que les habitants de la ville, vont se comporter comme lui il veut et qu'ils vont l'écouter et qu'ils vont, donc ils vont avoir la mishmat, ça veut dire qu'ils vont avoir la, qu'ils vont suivre sa discipline. Car, de la même manière, les deux âmes, d'un côté l'âme divine et de l'autre côté l'âme vitale, et l'âme, donc l'âme animale, Shema Aklipa, qui vient de la Klipa, qui n'est pas forcément négative, Nilchamot, Zo Imzo, Alagou, Vechol Evarav, les deux se battent constamment à la gouffe pour prendre le contrôle du corps, Vechol Evarav et tous les membres du corps. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui. Résumé de ce qu'on a étudié aujourd'hui, on a expliqué les deux quartiers généraux, le quartier général du cerveau, le quartier général du cœur, et on a expliqué comment c'est une guerre constante qui ne s'arrêtera jamais, parce qu'il y a les deux rois qui sont toujours là, qui ne s'arrêteront jamais. On vient d'expliquer l'image de la ville, et que chacun veut prendre le contrôle de la ville. Il y a une seule ville, il n'y a pas deux villes. Donc il y aura forcément tout le temps une guerre, parce que dès qu'un a pris le contrôle d'une rue, l'autre a envie de reprendre le contrôle de cette rue, il n'y a rien à faire. Tu peux dire, mais ça va, t'as pris une rue, l'autre il a pris une rue. Ça marche pas comme ça. Je veux toute la ville. Tant qu'il y aura même un maître que j'ai pas pris le contrôle, je serai pas tranquille, je serai pas content. Donc ça, c'est un petit peu l'histoire du combat qui est à l'intérieur. Et après, une fois qu'on aura bien compris le combat, on pourra parler de la volonté, qui est comment moi je gère le combat. Parce que là, c'est un combat qui se passe, quoi que je fasse, quoi que je veuille, il y a un combat qui se passe à l'intérieur. Et après, ma volonté, c'est ma capacité et ma, de décider, de dire qui j'écoute et qui je laisse prendre le contrôle. Voilà, on s'arrête là pour
c'est
aujourd'hui.
C'est vrai, mais enfin, c'est, dans toute cette affaire-là, c'est toujours la tête qui décide.
Rarement la tête qui décide.
Ben oui, on fait tout avec la tête.
Mais pas du tout.
Secondairement.
Je vous donne un exemple. Là, j'ai devant moi un verre de coca. J'ai pas réfléchi avant de le prendre. J'ai vu du coca, j'ai envie de le prendre. Maintenant, mon cerveau a envoyé un signal à ma maman, il dit prends le verre. Il a pas réfléchi à ce qu'il est bien pour moi ou pas. Je l'ai pris.
Raïm. À partir de quand les fèches et l'oki c'était baisé? Quand on est gourmand, c'est qu'on n'a pas de volonté.
À partir de?
Les fèches et l'oki c'était baisé en série chez les
égards. Avram Avinu.
Bien sûr, je crois que c'est ça. Avram Avinu le premier. Ouais. Et comment ça se fait que lui n'a pas réussi à donner ça à Ishmael son fils?
Parce que Avram Avinu, c'est la Yerusha qu'il a donnée à Yitzhak. La Yerusha principale, c'est la nefesh et l'oki, c'est l'âme divine. Et il n'a pas donné à Ishmael. Non. Yitzhak, il a donné à Yaakov et à Esav.
Pourquoi se marque Oulam Ilov alors?
Quoi?
Pourquoi se marque Oulam Ilov?
Parce que Yaakov et Esav représentent l'âme divine et l'âme animale. Oui, mais c'est une image. On reprend l'image de Yaakov et Esav pour expliquer l'âme divine et l'âme animale. C'est une image.
Mais Esav, c'est pas couloir animal, Esav.
Non, la Gemara dit clairement que Esav, c'est un Israël Moumar.
Qu'est-ce que je crois? Va avoir le vendredi soir.